Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Ce lundi, on parle de transition de genre avec Emmanuel Bobatti, sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonne écoute!
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Emmanuel Bobatti est sociologue. Il travaille à l'École des hautes études en sciences sociales. Son premier ouvrage est sorti en mai dernier, À la découverte. C'est l'adaptation de son travail de thèse, distingué par le prix du Défenseur des droits en 2018. Son titre, Transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Un bouquin original par sa façon de traiter les parcours de transition d'un point de vue sociologique, mais aussi par son analyse de ses mobilités de genre. Des mobilités qu'il compare à celles des classes sociales. Au micro de Radio Parleur, on va parler ensemble des inégalités dans les parcours de transition, de la manière dont ces transitions s'illustrent comme des mobilités sociales, mais aussi comment ces diverses transitions permettent de passer les frontières de genre et éclairent la multiplicité des genres. Emmanuel Bobatti, bonjour. Pour commencer, comment vous définissez un ou une transfuge de sexe ?
Bonjour, je définirais les transfuges de sexe comme des personnes qui s'affranchissent du sexe, de la catégorie de sexe qui leur a été assignée à la naissance, voilà, qui entreprennent de s'en émanciper, d'en changer. Et ce terme de transfuge, en fait, je l'emprunte à la littérature sociologique sur les mobilités sociales de classe. On parle souvent de transfuge de classe, hein, pour désigner les personnes qui, au cours de leur vie, eh bien, quittent leur milieu social d'origine pour en rejoindre un autre. Et en fait, cette expression de transfuge de sexe, elle est partie de cette analogie. C'était l'idée de montrer que finalement, le changement de sexe pouvait être considéré comme une forme de mobilité sociale à part entière, puisque le genre, en fait, structure le monde social dans lequel on vit, tout autant que la classe. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de travaux sur les mobilités sociales de classe, et il n'y a pas de raison pour que les transitions de genre, on ne les considère pas de la même manière.
Et justement, est-ce que vous pouvez présenter votre enquête ? Quand a-t-elle lieu ? De quelle manière ? Et vous avez commencé à en parler, mais à partir de quel moment dans vos recherches vous avez eu l'idée d'utiliser ce concept de transfuge ?
Alors, ça s'est imposé assez rapidement, hein. Bon, alors moi, j'ai travaillé à partir de deux grands volets d'enquête. Le premier, c'est une enquête qualitative par entretien, des entretiens biographiques, des entretiens qui portent sur l'ensemble du parcours de vie, pas juste sur la transition elle-même, hein, mais sur toutes les sphères de la vie et sur tout le cours de la vie depuis le plus jeune âge. Donc, c'est des entretiens assez longs. D'un autre côté, pour essayer de fournir des chiffres, de pouvoir un peu objectiver les différents parcours de transition, j'ai fait appel à une enquête statistique qui était la première enquête nationale sur les trans en France, qui a été menée par l'INSERM en 2010. Et du coup, je me suis appuyé sur cette enquête. J'ai fait des analyses à partir de cette base de données-là pour pouvoir avoir aussi des marqueurs un petit peu plus quantitatif pour étudier les parcours trans. Et en fait, avec donc ces deux enquêtes-là, il est apparu assez rapidement, ça a été très évident hein, sur le terrain, je ne l'avais pas forcément autant anticipé que ça, mais c'est apparu de manière tout à fait évidente que les hommes et les femmes trans n'avaient pas les mêmes parcours de vie. Et c'est ce qui m'a amené à notamment, après c'était déjà des choses que j'explorais avant, hein, les questions de mobilité de genre, mais en tout cas ça m'a convaincu, disons, que effectivement les deux versants de la mobilité sociale de sexe ne donnaient pas lieu au même parcours, que c'était bien des parcours qui ne se ressemblent pas, que finalement les transitions de genre, il y en a différentes déclinaisons, et notamment selon le sens de la mobilité sociale de sexe, mais pas que. Il y a aussi bien sûr des questions d'âge, de génération, de classe sociale, de race qui se jouent dans ces parcours.
Du coup, dans votre ouvrage, vous parlez de l'histoire d'une controverse, et donc je me demandais si vous pouvez revenir sur... Donc, vous dites à un moment que la réponse médicale au désir de changement de sexe est un sujet hautement polémique, et je voulais savoir si vous pouvez revenir et expliquer pourquoi.
Oui, alors ça, c'était le travail que j'ai fait au tout début de la thèse, parce que j'ai commencé en fait cette thèse dans un contexte effectivement de controverse qui est toujours vivante aujourd'hui, mais en tout cas qui était extrêmement marquée à l'époque. Cette controverse, c'est une controverse très complexe en fait. Elle oppose de manière assez assez clair des médecins à des trans, si vous voulez, parce que depuis une trentaine d'années, il y a des mobilisations trans qui se sont vraiment développées et qui sont venues produire un regard critique vis-à-vis des protocoles médicaux et juridiques de transition qui leur sont proposés. Ces protocoles, ils datent un peu maintenant, ils datent des années 60, ils n'ont pas vraiment beaucoup changé. Et à partir des années 90, il y a vraiment des mobilisations collectives hein, de personnes concernées qui ont commencé à dénoncer en fait les obligations, les contraintes de ces protocoles, et notamment en particulier ce qu'on appelle généralement la psychiatrisation, hein, c'est-à-dire le fait de devoir obligatoirement en passer par une longue évaluation psychiatrique pour pouvoir accéder à des modifications corporelles médicalisées lorsqu'on est une personne trans. Cette critique du protocole médical qui s'est développée, et notamment aussi parce que c'est un protocole qui véhicule un certain nombre de stéréotypes et de normes de genre, hein, puisqu'il s'agit finalement de prouver aux psychiatres que l'on est bien l'homme ou la femme qu'on veut devenir. Or, comment montrer ça sans avoir recours forcément à des stéréotypes de genre pour convaincre, c'est un petit peu compliqué. Il y a cette critique, il y a évidemment aussi la critique du protocole juridique hein, de transition. Pour changer d'état civil en France, il faut toujours en passer par le tribunal judiciaire, hein, donc c'est une procédure qui est judiciarisée. Et donc cette controverse, c'est un petit peu celle-là au départ, c'est-à-dire que on a une controverse entre un corps médical qui défend aussi la légitimité du protocole qu'il a construit et des personnes trans qui s'y opposent. Mais en fait, cette controverse, elle est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est quelque chose de très important à dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté le bloc des médecins et de l'autre le bloc des personnes trans. En fait, les trans forment une population tout à fait hétérogène. Tout le monde n'a pas le même avis hein, sur un certain nombre de sujets. Tout le monde n'a pas les mêmes aspirations pour sa transition. Tout le monde n'a pas le même rapport à la médecine et à la justice. Du côté des médecins, il y a aussi toute une diversité de courants médicaux qui n'ont pas toujours été aussi normatifs que ce qu'on pourrait penser dans le contexte contemporain. Il y a aussi des médecins qui ont... voilà, travaillé avec des personnes trans au cours de l'histoire qui ont formulé d'ailleurs le terme de genre comme quelque chose qui est socialement construit. Il y en a qui ont considéré le sexe comme un spectre, comme quelque chose qui n'avait rien de binaire. Bref, tout ça pour dire que cette controverse, en fait, ça n'est pas quelque chose de dichotomique. Et que finalement, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on voilà que moi ce que je pouvais penser au début de ce travail, par exemple, où je voyais que voilà des événements ou des articles ou des voilà de, avec des tribunes, enfin en tout cas qui présentaient finalement ces deux groupes, le corps médical et les trans comme vraiment tout à fait antagonique et homogène, alors que c'était finalement pas le cas.
Et justement, comment est née et comment s'est développée cette opposition de certains et certaines face aux obligations et contraintes découlant des transitions médicalisées ?
En fait, à partir des années 90, on a connu un développement exponentiel des études queer, des études donc qui étudie les normes à partir des marges, hein, les normes sexuelles et de genre à partir des marges et notamment à partir des gays et lesbiennes ou des trans. Et en fait, les mouvements trans contemporains, les mobilisations collectives des trans telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles ont émergé en fait à partir de cette critique queer. Et en fait, le cadre de pensée queer a permis en fait de faire émerger les premiers textes fondateurs des mobilisations collectives des trans, qui s'inspiraient vraiment de ce cadre de pensée. La priorité à l'époque, en tout cas, c'était justement de produire à partir des études queer une critique des catégorisation médicale et des protocoles médicaux qui étaient proposés aux personnes trans. Et donc la critique notamment qui a été formulée dès le début des années 90, notamment par Sandy Stone et Leslie Feinberg, c'était que ces protocoles médicaux qui étaient proposés aux trans, et qu'ils sont toujours, les obligeaient d'une certaine manière au passing, les obligeaient à passer pour des personnes cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas trans, et une des conditions d'accès aux soins, d'une manière ou d'une autre, le fait de, voilà, enfin, ça implique en tout cas de devoir affirmer que l'on souhaite, voilà, conformer son corps et son état civil. En tout cas, c'est quelque chose qui est fortement recommandé de dire au psychiatre, hein, que l'on souhaite conformer son corps et son état civil aux normes de sa catégorie de sexe de destination.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi certaines personnes trans peuvent user du discours du mauvais corps de manière stratégique?
Oui, c'est ce que Gayatri Spivak appelle l'essentialisme stratégique, hein, c'est-à-dire que c'est une manière pour des minorités, notamment sexuelles et de genre, de légitimer sa condition. Hein, c'est quelque chose qui peut être conçu de manière soit consciente, soit tout à fait inconsciente, hein, comme une manière de se défendre contre les discriminations, contre les violences, contre la stigmatisation, la pénalisation aussi parfois, que de dire, bah voilà, ce n'est pas moi qui ai choisi d'être comme ça, c'est la nature, je suis né dans le mauvais corps, et à partir du moment où c'est la nature, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut me reprocher. Donc ça, c'est un discours qui, de manière plus ou moins inconsciente, hein, peut aussi correspondre bien sûr à un sentiment très profond de la personne d'être dans le mauvais corps, mais c'est aussi une manière de s'expliquer aux autres, d'une certaine manière, un moyen de se protéger.
Et justement, pour revenir à l'ouvrage, vous demandez comment penser à pluralité, la diversité qui peut exister dans les parcours de transition. Et je me demandais justement de quelle manière l'analyse en termes de classe sociale était pertinente pour étudier les transfuges de sexe.
J'en suis venu notamment à mobiliser un concept qui est... Et ce concept, c'est l'espace social, la question de l'espace social. En fait, Pierre Bourdieu, c'est un sociologue qui parlait de ce qu'il appelait l'espace social de classe. Et moi, j'ai voulu faire l'analogie et parler d'un espace social du genre. Parce que cet espace social de classe, moi, me semblait déjà très, très heuristique, parce que c'est ce qui a permis notamment de revenir, du point de vue des classes sociales, sur les approches plutôt marxistes des classes sociales. Et cet espace social de classe, c'est un concept qui a permis de montrer que les classes sociales, eh bien, elles ne se résument pas à une opposition entre deux et seulement deux classes hermétiques et unidimensionnel, les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre. Pierre Bourdieu, il a montré qu'en fait, il n'y avait pas que la question économique qui se jouait dans la définition des classes sociales, qu'il n'y avait pas que le capital économique, qu'il y avait aussi d'autres choses, d'autres types de capitaux, et que finalement, en fait, les classes sociales en fait, ne se limitaient pas à un modèle binaire bourgeois-prolétaire. Donc, on voit finalement... que du point de vue de la binarité, c'est quelque chose qu'on peut peut-être transposer dans le champ du genre. Et j'ai essayé du coup, un peu à la manière de Bourdieu, de cartographier statistiquement un espace social du genre et de montrer que finalement, il existait différentes positions dans cet espace, que c'était finalement compliqué de classifier les personnes comme juste homme ou femme déjà. Que toutes les personnes trans n'avaient pas les mêmes parcours de transition, le même rapport aux normes de genre, la même manière de s'identifier, qu'il y avait des non-binaires par exemple, et ça c'est quelque chose, les mouvements non-binaires qui s'est vraiment développé pendant ce travail, donc je l'ai pris en compte au bout d'un moment. Et du coup, cet espace social, il permet de montrer que les personnes n'ont pas toutes le même rapport à leur corps, à leur état civil, n'ont pas les mêmes priorités dans leur engagement, n'ont pas la même manière de s'identifier, n'ont pas les mêmes pratiques, etc.
Et justement, sur la non-binarité, est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous avez pu prendre en compte l'émergence des mouvements non-binaires pendant votre thèse, par exemple ?
Oui, en fait, c'est des mouvements qui n'étaient pas vraiment encore là quand j'ai commencé. J'ai commencé en 2010. Et à l'époque, on disait encore rarement non-binaire. Mais il y avait beaucoup de personnes qui disaient autre chose que non-binaire, qui disaient queer, par exemple, ou agenre. Gender fluid, c'était déjà... Voilà, non-binaire, c'est un terme qui s'est vraiment ensuite démocratisé un petit peu plus tard, plutôt au milieu de la décennie. Il a vraiment commencé à vraiment être mieux connu. Mais en tout cas, ça m'a amené à me dire, eh bien, on peut tout à fait s'affranchir de sa catégorie de sexe assignée, et ça ne veut pas dire que tout le monde aura la même destination.
Est-ce que vous pouvez justement revenir sur ce terme de déclassement, mais aussi celui de trahison de classe ?
Du coup, le sentiment de trahison de classe, il est... plus présent en réalité, enfin il n'est pas vraiment présent dans les parcours de déclassement, je dirais qu'il est plus présent dans les parcours d'ascension, justement. Si vous voulez, les personnes qui s'affranchissent du sexe féminin, enfin les parcours, disons, des personnes qui ont été assignées au sexe féminin et qui rejoignent le masculin vivent une forme d'ascension, et les personnes qui ont été assignées au masculin et qui rejoignent le féminin vivent plutôt un déclassement. Et dans le cas donc des hommes trans, des personnes qui ont été assignées filles et qui deviennent des hommes, on remarque, et c'est valable aussi pour les personnes assignées filles qui se revendiquent non binaires, on remarque une certaine forme de culpabilité qui renvoie au fait de rejoindre une position sociale qui représente l'oppresseur en fait de son propre groupe d'origine en fait. C'est quelque chose qui n'est pas très confortable, évidemment, et c'est un sentiment que l'on retrouve dans les parcours de transfuges de classe également. Le fait de, voilà, d'avoir un petit peu des difficultés à assumer hein, cette nouvelle appartenance, et c'est ce qui peut expliquer le fait qu'on trouve plus de non-binaires parmi les personnes assignées filles à la naissance, et aussi que beaucoup d'hommes trans ont en fait du mal de manière générale à se dire homme. Il y en a beaucoup qui préfèrent se dire par exemple garçon, ce qui renvoie à une figure assez juvénile, hein, d'une certaine manière assez jeune, comme si c'était une masculinité qui n'était pas pleinement ancrée dans les rapports de domination adultes qui se jouent entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est plutôt dans ces parcours-là que l'on retrouve ce sentiment potentiellement de malaise, en fait, hein, de malaise de l'ascension sociale.
Les hommes trans ont plus tendance à se dire gays après une transition. Comment cela pourrait s'expliquer ?
En fait, moi je me suis dans cette recherche beaucoup intéressée à la question de la sexualité qui a été très longtemps laissée de côté par les études sur les trans, parce que beaucoup de chercheuses et chercheurs y voient un peu un terrain glissant, hein, il y a dans beaucoup de travaux, notamment en sexologie, une grande confusion, entre la question du genre et la question de la sexualité. Bon. Moi, j'ai essayé de les articuler d'un point de vue extrêmement sociologique, hein, pas d'un point de vue psychologique. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait en termes de sexualité avant, pendant et après la transition. Un résultat qui est apparu de manière assez évidente, c'était que les personnes transféminines et transmasculines n'ont pas du tout les mêmes trajectoires de genre, donc n'ont pas non plus les mêmes trajectoires sexuelles. Et notamment, quelque chose que j'ai pu observer, si on prend l'exemple de du pendant et de l'après-transition, j'ai pu remarquer que le groupe des femmes trans tendait au fil du temps à s'hétérosexualiser de plus en plus. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les femmes trans tendent en tout cas à avoir de plus en plus de partenaires masculins. À l'inverse, le groupe des hommes trans tend plutôt à s'homosexualiser, c'est-à-dire à avoir de plus en plus de partenaires masculins. Finalement, tout le monde a de plus en plus de partenaires masculins. Ça, c'est un petit peu étonnant, sachant ce qui se passe avant la transition. J'en dis juste un mot pour comprendre pourquoi tout ça n'est pas évident. C'est qu'avant la transition, en fait, les hommes trans sont quasiment tous, même si ce n'est pas le cas de tous, mais une très grande proportion des hommes trans est lesbienne avant la transition. En tout cas, à des partenaires féminines. Déclare aussi des attirances pour les femmes. Et quant aux femmes trans, eh bien, avant la transition, il y en a la moitié d'entre elles qui sont gays et l'autre moitié plutôt hommes hétéros. Ça, c'est plutôt les personnes qui transitionnent tard dans la vie et qui se marient, font des enfants, etc. Donc, c'est un petit peu étonnant quand même, cette évolution au cours de la transition, parce que finalement, si on prend l'exemple des hommes trans, avant, ils étaient quasiment qu'avec des femmes, et puis tout d'un coup, il y en a un tiers d'entre eux qui devient gay, donc qui déclare des partenaires ou des attirances pour des hommes. Bon. Quant aux femmes trans, elles étaient quand même pour moitié avec des femmes avant la transition exclusivement, après la transition, de plus en plus s'orientent vers des partenaires masculins. Même celles qui ont eu avant que des partenaires féminins. Il y a différentes choses qui permettent d'interpréter tout ça. Si on prend l'exemple des hommes trans, comment on peut expliquer le fait que on en ait un tiers quand même qui deviennent plus ou moins gays. Alors ça s'explique par différentes choses, et notamment par déjà par le sens de la mobilité sociale de sexe, là encore. C'est-à-dire que, comme je le disais, les personnes assignées filles à la naissance, qui font une transition, eh bien, ont du mal, finalement, à vraiment se reconnaître pleinement dans la masculinité, finalement, dans la catégorie homme, et encore plus dans la catégorie homme hétérosexuel, qui incarne quand même plus ou moins l'hégémonie parmi les masculinités. Et du coup, le fait de se dire gay, eh bien, c'est une manière comme une autre d'essayer de diminuer l'ampleur de l'élévation sociale connue dans ces parcours de femme vers homme. C'est une manière de dire, de signifier que l'on n'incarne pas la masculinité hégémonique, le fait de se dire gay. Il y en a même qui se disent gay alors qu'ils sortent avec des femmes. J'en ai eu qui étaient en couple avec des femmes et qui se disaient quand même PD, par exemple. C'est une manière, en fait, comme le fait de se dire garçon, qui fait référence à la jeunesse, comme je le disais, c'est une manière de se distinguer de la masculinité hégémonique qui est un petit peu inconfortable, disons, quand on a été auparavant une femme. Donc ça, c'est un premier élément explicatif. Un autre élément qui est important de dire, c'est que les hommes trans qui se disent le plus gay, ce sont des personnes qui sont particulièrement dotées en capital scolaire et culturel. Ce sont des personnes souvent très diplômées, là encore, moi j'y vois, si vous voulez, aussi une manière, là encore, c'est des personnes qui ont, comme pour dans le cas des non-binaires, peut-être plus de facilité à en parler, qui ont peut-être l'impression de moins prendre de risques et de pouvoir l'énoncer, le fait d'être gay, mais aussi peut-être qui veulent, d'un point de vue de classe sociale, signifier une certaine modernité. Le fait de se dire gay, comme de se dire féministe, ou de se dire, c'est aussi une manière de signifier que, on peut se reconnaître dans des identifications alternatives, dans des sexualités alternatives, et que c'est un marqueur finalement de modernité, de tolérance, etc. C'est quelque chose qui repose sur différents paramètres concernant les femmes trans. Juste un mot sur leur évolution du point de vue de l'orientation sexuelle. En fait, cette tendance chez les femmes trans qu'on observe à l'hétérosexualisation, et au fait d'être de plus en plus avec des hommes, on peut l'interpréter sous l'angle de l'obligation à l'hétérosexualité que connaissent les femmes en général. C'est-à-dire que pour devenir une femme, que ce soit une femme cis, ou une femme trans, ça passe dans tous les cas par une forme de validation de la part des hommes, par le fait de se voir à travers le regard des hommes. Et même si, évidemment, les personnes me disaient, j'ai eu beaucoup de femmes trans qui me disaient, mais moi, je sais bien que c'est problématique. J'ai pas du tout envie de me jauger, de jauger ma féminité par rapport aux hommes. Moi, je suis féministe, etc. Et pourtant, beaucoup me disaient qu'elles avaient quand même besoin, à un moment ou à un autre, d'avoir un peu cette validation des hommes, parce que, tout simplement, la féminité se construit dans notre société à travers le regard des hommes, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les hommes, ils se construisent entre eux. C'est entre eux qui déterminent leur valeur sociale, qu'ils se jaugent, mais les femmes, c'est à travers le regard masculin. Pour les évolutions des orientations sexuelles, qui sont donc très différentes selon les la trajectoire de genre, le sexe assigné à la naissance, selon le sens de la mobilité sociale de sexe, mais aussi parfois selon les appartenances de classe aussi, puisque la sexualité, elle ne fait pas que construire le genre, en tout cas participer à construire le genre, elle participe aussi à construire, dans une certaine mesure, aussi la classe.
Merci beaucoup Emmanuel Bobati d'avoir été avec nous, c'était très intéressant. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre ». Il est sorti en mai dernier aux éditions La Découverte. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut!
Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM. Du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Emmanuel Bobati, sociologue, nous parler de transition de genre en prenant notamment appui sur son ouvrage Transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Vous pouvez dès maintenant retrouver le podcast sur le site jetfm.fr ainsi que sur celui de Radio Parleur et diverses plateformes d'écoute. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet!